Nous avons déjà entendu des paroles précieuses. On pourrait s'arrêter sur chaque verset, s'imprégner de chaque pensée, y réfléchir et demander, Seigneur, qu'as-tu à me dire aujourd'hui par ta parole? À l'époque, le Sauveur s'adressait à ses disciples. Aujourd'hui, il nous parle à nous, à moi et à toi. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes chargés d'exécuter sa volonté dans son royaume. Il ne suffit pas que nous parlions de ce que Dieu a fait autrefois. Dieu veut aujourd'hui faire valoir ses droits parmi son peuple, recevoir ce qui lui revient parmi son peuple dans son royaume. Il veut pouvoir appeler, il veut pouvoir envoyer, il veut agir, se manifester et appeler encore les derniers dans son royaume, se manifester et se faire connaître à eux. Il est dit ici, Luc 10, verset 1, Luc 10, verset 1, puis il désigna encore 70 autres disciples. Il en avait déjà appelé et envoyé 12, puis il l'en a de nouveau appelé 70. Et depuis, il en a appelé beaucoup et les a toujours envoyés de nouveau. Et ceux qu'il a envoyés ont proclamé sa parole, et c'est important. C'est ce qui compte. Chacun accomplit le mandat qui lui a été confié. Je veux dire qu'en aucun cas nous n'avons besoin ou l'intention de dire quoi que ce soit sur qui que ce soit en ce lieu. Mais chaque communauté religieuse et communauté religieuse libre, communauté ou assemblée revendique en effet d'être l'Église de Dieu, de parler et d'agir au nom du Seigneur. Mais nous devons alors accepter la comparaison réelle avec les paroles de Dieu. Il faut alors pouvoir appliquer le critère des saintes écritures. Et l'Église du Seigneur doit être aujourd'hui exactement comme elle était au commencement. Elle n'est pas soumise au temps. Elle ne peut pas changer. Tout, tout doit rester tel que Dieu l'a instauré. Et nous parlons en particulier ces jours-ci de la construction de l'édifice de l'Église du Dieu vivant. Pas seulement de l'édification d'une communauté chrétienne, mais de l'édification de l'Église, du Seigneur, de ceux qui subsisteront vraiment devant lui lorsqu'il reviendra, qui se tiendront devant lui. Car c'est à cela que nous nous intéressons. C'est notre but, être avec le Seigneur auprès de lui. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un absolu. Et cet absolu ne peut pas être ce que disent les hommes. Nous avons sur terre, nous le savons tous, tant de directions différentes. Laquelle a raison? Qui peut-on croire? À qui faire confiance? Mais vraiment, seulement à Dieu et à sa parole. Nous ne pouvons pas faire confiance aux hommes. Ceux que le Seigneur a lui-même appelés. Il dit d'eux, comme frère Schmitt l'a déjà souligné à partir du verset 16, Luc 10, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Mais celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Luc 10, verset 16. Il s'agit d'une déclaration très puissante. Dès l'instant où le Seigneur appelle un homme, nous n'avons plus affaire à l'homme, mais au Seigneur qui l'a appelé. Et autrefois, les disciples sont partis, mandatés, avec une procuration pour annoncer le royaume de Dieu et prêcher la parole du Seigneur aux autres de manière contraignante et à dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Non seulement il est proche, mais dans ce passage biblique, il est dit ici dans la 10e ou la dernière partie du 9e verset, Luc 10, verset 9. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Pas seulement la formulation générale, le royaume de Dieu est proche, mais il s'est approché de vous. Il vous est annoncé. Vous pouvez maintenant y entrer. C'est bien de cela qu'il s'agit. En général, et c'est également écrit ici dans les autres évangiles, il est dit que le royaume de Dieu s'est approché. Ici, il s'est approché de vous, c'est écrit, approché de vous. De qui? De ceux qui ont entendu la parole du Seigneur de la bouche, de ceux qu'il a appelés, qu'il a envoyés, qu'il a mandatés, qu'il a autorisés. Le royaume de Dieu était venu à eux, il était proche d'eux. Nous sommes convaincus que le Seigneur bâtit son Église et c'est ce que nous lisons dans Matthieu au chapitre 16. Ce passage bien connu que tous ceux qui ont lu les Saintes Écritures connaissent certainement par cœur. Il est écrit dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. « Et maintenant, moi aussi, je te le dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer, plutôt, ne prévaudront pas contre elle. Non pas sur Pierre, mais sur ce rocher, sur la révélation divine de Jésus-Christ. Il est, en effet, le rocher du salut. C'est sur lui que nous aussi, nous sommes édifiés pour devenir une maison spirituelle, afin de pouvoir adorer Dieu de manière juste. Il dit, « Je bâtirai mon Église. » Là où le Seigneur peut parler, là où il peut agir, là où il peut se manifester, là où sa parole est entendue et crue, les hommes sont introduits. C'est là qu'ils sont introduits dans son royaume, dans son Église. Non pas dans un royaume, non pas dans une assemblée, ou dans une église, mais dans son royaume, dans son église, reçoivent une part de ce qu'il fait. Nous l'avons déjà considéré en grande partie hier. J'ai également lu un extrait d'une prédication de Frère Branham que Dieu a, n'est-ce pas, utilisé de manière particulière à notre époque. Et nous savons que si quelqu'un est réellement envoyé par Dieu, nous devons l'écouter. L'écouter. Et tous ceux qui sont de Dieu le remarqueront. Ils seront interpellés dans leur cœur. Ils seront attirés par l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui est merveilleux. Non pas la persuasion des hommes, mais l'attraction de l'Esprit. L'action de Dieu dans le cœur d'un homme. À quoi nous sert une grande assemblée si Dieu n'a pas pu la construire, la bâtir si les personnes qui en font partie n'atteignent pas le but. C'est pourquoi, avec l'aide de Dieu, nous nous sommes donnés pour tâche, ou Dieu nous a donné pour tâche de répondre à sa parole, de nous y conformer afin que nous puissions tenir devant lui. Car le ciel et la terre passeront, mais sa parole subsistera pour l'éternité. Hier, nous avons lu de 1 Corinthiens 12. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul donne des instructions à l'Église. Et il nous est rapporté à de nombreux endroits à quoi ressemble l'Église du Nouveau Testament. Quel est le mandat que Dieu lui a donné, ce qui se passe à travers elle? Et je pense qu'il est important de considérer cela pour que notre foi puisse être remplie de vie et de l'Esprit de Dieu. Puisse être remplie de vie de l'Esprit de Dieu. Et la proclamation de la parole n'a qu'un seul but, c'est de nous mettre en harmonie avec Dieu, nous mettre en accord avec Dieu pour qu'il puisse agir. Dieu ne peut se manifester que là où les hommes se laissent mettre en accord avec ses paroles, en conformité. L'Esprit de Dieu agira toujours seulement conformément à la parole de Dieu. Il ne peut en être autrement avec Dieu. Ici, dans 1 Corinthiens 12, le verset 12 est dit, 1 Corinthiens 12, verset 12, car de même que le corps est une unité, mais qu'il a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur multiplicité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Car c'est par un seul esprit que nous avons tous été unis en un seul corps par le baptême, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Peut-être d'abord jusqu'ici. Deux termes ont été mentionnés ici. Premièrement, par un baptême. Et deuxièmement, par un esprit. Et en effet, selon la parole du Seigneur, il n'y a qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Les deux se lisent dans la parole de Dieu. Nous pouvons ouvrir à ce sujet le chapitre 4 des Éphésiens, où il est écrit au verset 5 ici, Éphésiens 4, verset 5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le verset 6, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Aujourd'hui, il y a différentes croyances, différents baptêmes. Chacun fait ce qu'il veut. Avec Dieu, ce n'est pas possible. Dieu a un plan. Et dans ce plan qui a été consigné dans ses paroles, tous ceux qui veulent exister et subsister devant Dieu doivent se plier. Dieu ne va tout de même pas changer d'avis et se conformer à ce que les hommes ont formulé. Non. Celui qui veut être en accord avec Dieu doit dire oui à ses paroles. Il faut, en effet, à ce qu'un seul Seigneur règne sur nous, à ce qu'un seul Seigneur ait autorité sur nous, à ce qu'une seule foi serve de guide, à savoir la foi telle que l'Écriture nous l'a dit, et puis un seul baptême. Aujourd'hui, et nous le savons tous, on baptise de telle ou telle manière, de différentes façons. Chez les hommes, il y a donc toujours une diversité de tout. Chez Dieu, avec Dieu, il n'y a toujours qu'une seule chose. Mais cette chose divine est juste, et c'est ce qui compte. Il ne s'agit pas des nombreuses choses qui peuvent se trouver sous nos yeux, mais de la seule chose que Dieu a fixée dans ses paroles. Le verset 5, Éphésiens 4, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le verset 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Pouvons-nous nous compter parmi ce groupe? Pouvons-nous dire, il est au-dessus de nous, à nous et par nous? Nous sommes-nous totalement soumis à Dieu? Avons-nous compris qu'il est un Seigneur et qu'il n'y a qu'un seul baptême et qu'une seule foi, la foi en Dieu? Le Seigneur qui a ordonné et institué toutes choses. Revenant à cette parole dans la lettre aux Corinthiens. Par un seul esprit. C'est par un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Que nous avons tous été unis en un seul corps par le baptême. Non pas par une eau. Non pas par trois gouttes à appliquer sur le front d'un enfant, hein, mais 1 Corinthiens 12, verset 13, c'est par un seul esprit que nous avons tous été unis en un seul corps par le baptême. Et alors, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous voyons déjà de quoi il s'agit ici. Non pas de ce que les hommes accomplissent, mais de ce que Dieu fait par son esprit pour ton âme et la mienne. Les actes humains ne suffisent pas dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous devons être saisis par l'Esprit de Dieu. Le verset 14 dit ici, verset 14, le corps lui aussi n'est pas composé d'un seul membre, mais de plusieurs. Ensuite, ils sont énumérés l'un après l'autre. Et il est dit au verset 12 et 20. Verset 19, si le tout n'était qu'un seul membre, où serait le corps? Nous formons maintenant le corps du Seigneur, l'Église du Dieu vivant. Nous pouvons certes dire, Seigneur, ajoute-nous aussi à ce corps, mais l'assemblage doit se faire par l'Esprit sous les paroles de Dieu. Dieu assemble, et Dieu forme ce corps. Or, il n'y a pas un seul membre, mais plusieurs membres qui forment un seul corps, à savoir le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur doit être un corps vivant. Christ est ressuscité d'entre les morts et il est vivant. Il ne vit qu'en ceux qui ont reçu une nouvelle vie de Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur ne pourra jamais s'associer à des systèmes religieux morts, car tout ce qui est fait par l'homme est mort. Tout ce qui a été créé par Dieu a la vie. Même dans la nature, dans la création, chaque arbre, chaque plante, chaque arbuste, tout a déjà la vie dans le naturel parce qu'il a été créé par Dieu. Combien plus celui qui est maintenant devenu une nouvelle création en Christ a-t-il reçu une nouvelle vie divine et sera baptisé dans l'Esprit pour former ce corps vivant du Seigneur et être ainsi uni par l'Esprit pour former ce corps vivant du Seigneur. Christ est la tête et lorsque tous les membres ont été ainsi unis, alors nous sommes utilisables. Nous pouvons aussi alors accomplir le service qu'il nous a confié. Et c'est ce que nous voulons, nous aimerions en ce dernier temps de grâce qui arrive à son terme, être encore une fois témoin du fait que les actes des apôtres et ce qui était au commencement se reproduisent à la fin et que ainsi soit confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Ici, ce ne sont pas tes efforts et les miens qui sont requis, mais ta foi et la mienne, ton obéissance et la mienne, ta soumission et la mienne à Dieu et à sa parole, afin qu'il puisse accomplir par notre intermédiaire ce qu'il a décidé de faire. Les efforts humains n'ont aucune place dans le royaume de Dieu. Il s'agit d'efforts personnels. Lorsque le Seigneur Jésus a envoyé les 70, ou alors les 70, il les a mandatés et leur a donné des instructions précises sur ce qu'ils devaient faire. Et ils ont agi par ordre du Seigneur qui les a envoyés. C'est ainsi que tous ceux, maintenant, que le Seigneur vraiment appelle et qu'il mandate, agissent en son nom. Mais sous le coup de sa parole, au son de sa parole, des hommes sont appelés à sortir pour entrer dans le royaume de Dieu qui leur a été ainsi approché. Approché. Car ils croient et tout homme qui croit reçoit ce que Dieu a promis. Dieu ne peut jamais revenir sur sa parole et son offre. Il s'en tient à ce qu'il a dit. Ici, on va encore plus loin et on lit au verset 21. 1 Corinthiens 12, verset 21. Mais l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, pas plus que la tête ne peut dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Au verset 22, bien au contraire, les membres apparemment les plus faibles du corps sont justement nécessaires. Nous remarquons qu'il s'agit de chaque membre. Et c'est là que me vient à l'esprit un passage biblique du prophète Osée où se trouve le mot adhérent. De nos jours, à notre époque, il y a des adhérents partout. On peut être adhérent de n'importe quelle association, mais avec Dieu, il faut être membre. Pas seulement adhérent, mais membre. C'est probablement Amos 7. Voici ce que dit le prophète. Amos 7, verset 14. Alors Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis pas prophète, je ne suis pas adhérent d'une école de prophètes, mais je suis berger et j'élève des sycomores. Verset 15. Mais le Seigneur m'a pris derrière le troupeau et le Seigneur m'a ordonné, va, parle contre mon peuple Israël comme prophète. Verset 16. Et maintenant, écoute la parole du Seigneur. Nous avons ici, dès l'Ancien Testament, cet appel divin sous les yeux. La rébellion contre le prophète lui était désagréable car il savait que c'était une rébellion en fait contre Dieu. Alors il se défend et dit, écoutez, je ne suis pas un prophète. Je n'étais pas adhérent d'une école de prophètes. Dieu m'a fait sortir de derrière le troupeau. Je n'ai pas eu de sycomore. Et qu'est-ce que c'était? Les gens pensaient, voilà un homme qui se présente. Il vient simplement, il a la prétention de dire ceci ou cela. Et cet homme savait au plus profond de son cœur que je serais aujourd'hui là où j'ai toujours été si Dieu ne m'avait pas appelé, s'il ne m'avait pas envoyé, s'il ne m'avait pas donné un ordre, un mandat. Et il dit à ce roi-là, à ce roi, je ne suis en effet qu'un homme qui cultive des mûriers. Mais le Seigneur m'a enlevé derrière le troupeau. Il avait donc les deux. Il avait un verger de mûriers et il avait un troupeau. Et il dit, ce n'est pas moi qui suis sorti de moi-même, qui suis venu de moi-même. Il voulait dire, ma tâche, je l'ai accomplie toute ma vie. Je l'ai suivi, mais me voici maintenant mandaté par le Seigneur. Je ne suis pas venu de moi-même, j'ai été mandaté par le Seigneur qui m'a sorti de mon domaine terrestre et m'a placé dans son royaume lié par une mission divine, par un ordre, par un mandat divin devant les rois et tout le peuple pour dire ce que j'ai à dire. Il n'aurait eu qu'à ajouter roi Amatia, si tu veux t'opposer à quelqu'un, fais-le avec le Seigneur, avec Dieu le Seigneur qui m'a appelé et qui m'a envoyé, car je ne fais que ce pourquoi il m'a conduit ici. Les gens ont rarement compris et saisi quand Dieu leur envoyait des prophètes, ils les ont rejetés et ont même dit, va-t'en d'ici. Si tu as un message à apporter, ne le fais pas ici, car c'est une résidence royale ici. Cela encore, le roi des rois n'a-t-il pas autorité sur tous les royaumes de la terre? Sa parole n'est-elle pas valable dans les palais des rois? Dieu établit et Dieu destitue. Sa parole est la parole de la toute-puissance divine et elle est valable pour tous et pour tous ceux qui sont prêts à l'entendre. Mais le prophète Ésaïe écrit bien au chapitre 53, au premier verset. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre annonce? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Homme, quand Dieu nous parle, croyons ce qu'il nous dit, car c'est ce qu'il exige de nous, de toi et de moi. Bien sûr, nous pouvons penser dans notre cœur, qui est donc cet homme qui se permet de nous parler. Je pourrais presque dire la même chose, et beaucoup l'ont dit à travers les siècles et les millénaires. Nous ne sortons pas d'une école de prophètes, nous ne sommes pas non plus des prophètes, mais la parole du Seigneur nous a été adressée, est venue, nous a été adressée, et c'est pourquoi nous devons porter cette parole et la dire aux autres. Si donc le Seigneur a déclaré, a fait cette déclaration, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous reçoit me reçoit, il y a là un très grand poids. Luc 10, verset 16. Celui qui vous rejette, me rejette. Dieu a envoyé ses messagers tôt et tard, matin et soir. Il a parlé aux hommes. Heureux celui qui a su discerner que ce n'était pas l'homme qui présentait son programme, mais que cela était reconnu. Ici, quelqu'un parle sur mandat divin, sous ordre divin. Ici, la parole du Tout-Puissant est annoncée. Ici, le Seigneur se révèle. Bien-aimés, comme nous pouvons être reconnaissants à Dieu d'avoir trouvé en ces derniers jours des personnes auxquelles il peut encore s'adresser, qui deviennent silencieuses et qui sont prêtes à entendre ce qu'il a à dire. Il y a deux possibilités. Nous pouvons plaire à Dieu ou alors aux hommes. Les deux en même temps, ce n'est pas possible. Nous avons ou alors la faveur des hommes ou la faveur de Dieu. Et la semaine dernière, j'étais dans cette salle avec un homme et nous avons eu une conversation et il a écouté plus longtemps que je n'avais le temps, et dehors sur les marches, il était là et il a dit: Monsieur Franck, si je dois vous dire les choses telles qu'elles sont, je vais le faire maintenant. Et il s'est exprimé. Tout ce que nous avons fait avec nos enfants, nous l'avons fait uniquement pour ne pas faire de peine à la grande mère, pour lui être agréable, parce que nous saurions quelles seraient les conséquences si la grande mère savait que nous n'allions plus à la communauté religieuse, que nous ne laissions plus faire ceci ou cela avec les enfants. C'est alors que cela a franchi mes lèvres. Ils ont le choix de chercher la faveur de la grande mère et d'agir, ou alors de chercher la faveur de Dieu et d'agir. Bien-aimés, humainement parlant, on pourrait comprendre cela. C'est une tradition. C'est une transmission de génération en génération. Des credos sont transmis de génération en génération. Et lorsque soudain le gouvernail est renversé et qu'une autre direction est prise, cela devient tout de même assez turbulent. Mais je préfère une turbulence ici, dans la famille, et à la fin de notre vie, une transition en douceur vers la gloire de Dieu, plutôt qu'ici, tout est glorieux et dans la joie, et à la fin de notre parcours de vie, une grande turbulence. Bien-aimés, on peut réfléchir à ce genre de choses, mais c'était quand même une déclaration honnête. Nous le faisons tout cela que pour être le résultat de la complaisance envers les hommes. Dieu cherche des gens comme ça qui veulent lui plaire, qui veulent avoir sa faveur, et ce à n'importe quel prix. Mais cela s'accompagnait toujours d'un sacrifice et d'un malentendu entre les gens, que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament, notre Seigneur, ou déjà même Jean qui l'a précédé, et plus tard les apôtres. Dieu a toujours et encore trouvé des personnes qui lui ont fait confiance. Mais à partir de là, ces gens n'ont plus été compris. Ils ont commencé à nager à contre-courant. Les traditions ont été jetées par-dessus le bord et une nouvelle vie avec Dieu a commencé. Ce qui est grave, c'est quand quelqu'un passe d'une religion à une autre. Cela, je pense qu'il ne faut pas le faire. C'est ce que je veux dire. On ne devrait pas faire ça. On ne devrait pas passer d'une religion à une autre. Et puis, comme ça, d'ici à là. Mais on devrait sortir de tout cela et entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ce qu'on devrait faire. On ne devrait pas changer ici et là. Mais si on doit le faire, on devrait le faire correctement. Cela ne peut être juste que de la manière dont Dieu l'a dit dans ses paroles. Imaginez qu'au jour du Seigneur, les Sadduciens soient devenus des pharisiens. Ils n'auraient fait que passer d'une chose humaine à une autre et cela n'aide personne. Non, Dieu nous appelle. Mon royaume s'est approché de vous. Je vous ai envoyé des messagers qui vous annoncent ma parole. Vous devez prendre votre décision en ma présence, car ce ne sont pas eux, mais moi qui vous ai parlé et qui vous invite à me servir et à me suivre. Dans le royaume de Dieu, nous n'avons effectivement pas affaire à des hommes, mais à Dieu. Et nous en sommes heureux. Le royaume de Dieu est en effet le royaume de Dieu et se compose d'hommes. Mais ces hommes ont renoncé à tout ce qui leur était propre, c'est-à-dire dans le domaine religieux, et ont suivi les ordonnances de Dieu, les décrets de Dieu, en se soumettant à ce qui appartient au royaume de Dieu. Nous sommes restés des hommes et nous le resterons, mais avec la soumission divine à sa sainte et précieuse parole. Bien-aimé, celui qui peut goûter et comprendre un tant soit peu la grâce de Dieu et l'amour de Dieu n'aura aucune difficulté à être placé dans le royaume de Dieu. Il dira simplement, « Seigneur, je suis ici maintenant. Ta parole est entrée dans mon cœur. Je te crois. Accepte-moi comme ta propriété. Je veux entrer dans ton royaume et je veux y entrer maintenant. » Amos a dit autrefois, « Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas adhérent d'une école de prophètes. Mais le Seigneur m'a enlevé de derrière le troupeau pour annoncer sa parole. » Qui étaient les 12? Qui étaient les 70, bien les 70? Qui étaient ceux que le Seigneur a appelés? Il a appelé l'un d'entre eux depuis la mer de Galilée, l'autre depuis la douane, le troisième d'ici et le quatrième de là. Partout, il les a appelés. Il les a envoyés pour que la sainte parole de Dieu soit annoncée à l'humanité. Et quelle est la possibilité d'entrer dans son royaume? Partout où des hommes envoyés par Dieu ont proclamé la parole, ils devaient dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Comme c'est merveilleux. Aujourd'hui, à cette heure, nous sommes tout près du royaume de Dieu. Beaucoup ils sont déjà entrés. D'autres peuvent y entrer ce matin. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous pouvons prendre notre décision maintenant et dire, « Seigneur, voici ma vie. Je te la consacre. Accepte-moi tel que je suis. » Et Dieu le fera. Et nous, qui sommes déjà devenus croyants, et tous ceux qui le deviendront encore, devons alors être unis, réunis en une seule unité, afin que le Seigneur puisse se manifester encore une fois parmi son peuple en ces derniers jours. Qu'il nous donne un cœur volontaire, un cœur obéissant, un cœur croyant, par grâce. Et il ne nous sera pas difficile de le suivre alors, de le servir et de le croire. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de qui sont toutes choses. Et c'est pour lui, par lui et pour lui que tout est. Que tout est. Et c'est aussi pour lui que nous sommes là. Toi et moi sommes sa propriété. À la croix, à Golgotha, le prix a été payé. Le sang de l'agneau a coulé. Et notre Seigneur et Sauveur s'est exclamé, tout est accompli. Il a dit à l'un de ceux qui ont été crucifiés avec lui, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur appelle bien celui qui le suit. Amen. Levons-nous et prions. Peut-être chanterons-nous le cœur tel que je suis, tel doit être. Comme je suis, il doit en être ainsi, pas de ma force, mais seule la sienne, mais seule la tienne, pardon. Ton sang me lave du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Inclinons nos têtes. Restons devant Dieu dans une prière silencieuse. Fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et parlons à Dieu en silence, tandis que son esprit agit sur nous. Dieu appelle, il parle encore, son esprit avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tous ceux qui ont suivi cette voix, qui ont entendu l'appel et y ont répondu, seront dans la joie pendant toute l'éternité et seront reconnaissants que le Seigneur leur ait parlé et se soit révélé à eux. Beaucoup nous ont déjà précédés. Les derniers sont maintenant appelés. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, Dieu nous parle à nous qui sommes réunis ici sous le son de la parole, sous l'écoute de sa parole. Alors que nous sommes ainsi courbés devant lui, je voudrais demander si quelqu'un veut répondre à cet appel et dire dans son cœur, Seigneur, fidèle, tu as souffert pour moi, tu es mort, tu as versé ton sang pour me racheter. Je ne veux pas seulement entendre parler de ton royaume, je veux être dans ton royaume. Accueille-moi aujourd'hui, reçois-moi dans ton royaume, et vous verrez, Dieu le fait. Celui qui a ainsi dans son cœur la réponse à Dieu peut en témoigner et lever la main. Nous aimerions prier pour vous. Avec vous, nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Nous prions les uns pour les autres, afin que le Seigneur puisse aider chacun d'entre nous. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Prions pour cela. Père céleste, quelle grâce que tu parles encore, que tu appelles encore. Nous sommes ici, Dieu fidèle, parce que tu nous as parlé et parce que tu nous as appelés. Nous sommes venus et tu dis, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Je ne le rejetterai pas. Tu n'as jamais chasser personne, tu as fait entrer tout le monde. Et celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il sera sauvé, bienheureux, béni. Dieu fidèle, commence à révéler la réalité de ton royaume, de ta parole et de ton esprit, afin que les hommes soient saisis par toi, que ta main se pose sur eux avec miséricorde, que ton esprit leur parle et qu'ils saisissent que c'est toi qui les a interpellés. Seigneur, donne-nous des services divins qui donnent la vie, des réunions dans lesquelles tu te révèles, dans lesquelles tu peux sauver, guérir et bénir, comme tu l'as toujours fait. Je te remercie, Seigneur, fidèle, pour ta sainte et précieuse parole. Je te remercie pour tout ce que tu as appelé. Révèle-toi à nouveau, Seigneur bien-aimé. Bénis aussi tous ceux qui ne peuvent pas être ici ce matin. Dieu fidèle, sois proche d'eux et continue de parler à tous nos cœurs par ta parole et par ton esprit de grâce au nom de Jésus. Amen.